Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce jeudi 20 juillet 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Un accord de coopération bilatérale a été signé entre les ministres de la Défense de l'Iran et de la Bolivie. Les forces israéliennes ont pris d'assaut la ville de Naplouse. Un Palestinien a été tué et 4 autres blessés. Et les plans de vidéosurveillance par IA pour les Jeux olympiques de Paris suscitent l'inquiétude. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un accord de coopération bilatérale a été signé entre les ministres de la Défense de l'Iran et de la Bolivie ce jeudi 20 juillet à Téhéran. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Chtieni, a déclaré lors de la cérémonie de signature de l'accord que les pays d'Amérique latine occupaient une place tout à fait importante dans la politique étrangère et de défense du pays en raison de la région stratégique de l'Amérique du Sud et que la visite de hauts responsables du pays, le président de la République islamique d'Iran entre autres, dans cette région mettait en valeur cette importance. Lors du voyage du ministre bolivien de la Défense dans le pays, nous avons essayé de lui faire découvrir les acquis et les capacités du ministère de la Défense dans diverses dimensions. La Bolivie a des demandes en termes de défense des frontières, la lutte contre le trafic de drogue, et nous avons donc essayé d'avoir des interactions avec ce pays latino-américain en termes d'équipement. Au point que cette coopération peut être prise comme un modèle pour les autres pays amis d'Amérique du Sud, a déclaré le général Ashtieni. Lors de cette cérémonie, Edmundo Neville Aguilar, ministre bolivien de la Défense, a estimé positive sa visite en Iran. Notre présence en Iran a été planifiée en fonction d'une série de sujets précis. Dans notre pays, nous avons des préoccupations dans le domaine du trafic de drogue et du contrôle des frontières. Et tout en demandant l'aide de l'Iran dans ces domaines, nous espérons également coopérer avec l'université militaire iranienne dans le domaine universitaire. Le ministre iranien de la Défense, réagissant à la décision américaine d'envoyer des avions de chasse et des moyens navals supplémentaires dans le détroit d'Ormuz et la mer d'Oman, a déclaré que personne n'est en mesure de menacer un Iran puissant. Le général de brigade Mohammad Reza Ashtieni a fait ses remarques en marge d'une session du cabinet à Téhéran mercredi 19 juillet, 2 jours après que le porte-parole du Pentagone a confirmé que l'armée américaine enverrait le destroyer USS Thomas Sander et des avions de combat F-16 et F-35 dans la région du Golfe Persique en réponse à un certain nombre d'événements alarmants récents dans le détroit d'Hormuz. Les États-Unis poursuivent leurs propres affaires. La République islamique a atteint fondamentalement un niveau de puissance et de capacité militaire que personne ne peut la menacer. S'exprimant mardi, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareilly, a déclaré que les ennemis avaient abandonné leur rhétorique martiale contre l'Iran ces dernières années en raison du pouvoir de dissuasion de la République islamique d'Iran. Nous avons même dépassé ce niveau et continuons à jouer notre rôle régional et international, a dit le général Hachtieni, indiquant que tout cela montre que la République islamique d'Iran progresse et se développe. Il a annoncé que le ministère iranien de la Défense coopérait avec des entreprises fondées sur la connaissance dans le but d'équiper les forces armées iraniennes de nouvelles armes et de moderniser leurs équipements existants dans les domaines du combat terrestre ainsi que des navires, des hélicoptères et des drones. Les forces israéliennes ont pris d'assaut la ville de Naplus au nord de la Cisjordanie et se sont affrontées avec des Palestiniens. Un adolescent a été tué et 4 autres Palestiniens blessés. Les militaires du régime sioniste ont escorté un groupe de colons, dont le commissaire de police Kobi Shabtai et d'autres responsables de la police, qui visitaient le tombeau du prophète Youssef tôt jeudi. La visite provocatrice a déclenché des affrontements avec les Palestiniens, qui ont tenté de faire face aux raids israéliens. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que Bader Sami Masri, 19 ans, a été touché par des tirs israéliens et transporté à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures. Au moins 4 Palestiniens ont également été blessés par balles lors des affrontements, dont 2 se trouvent dans un état grave, a déclaré le Croissant Rouge palestinien dans un communiqué. Il a également indiqué que 30 Palestiniens avaient été soignés après avoir inhalé de gaz lacrymogène, dont une fillette de 12 ans. Ahmed Djibril, chef du service des urgences et des ambulances du Croissant Rouge à Naplus, a déclaré que les troupes du régime sioniste avaient tiré des balles en métal recouvertes de caoutchouc sur une ambulance qui transportait un patient près du camp de réfugiés de Balata. Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient des combattants palestiniens faisant exploser un bulldozer blindé israélien avec un engin explosif improvisé. Des centaines de manifestants irakiens ont pris d'assaut jeudi 20 juillet l'ambassade de Suède dans la capitale Bagdad et ont incendié un secteur en guise de protestation contre la deuxième profanation prévue du Saint-Coran en Suède. Les manifestants en colère, qui étaient des partisans de l'éminent religieux chiite irakien Murtada al-Sadr, ont pris d'assaut les portes principales du bâtiment de l'ambassade jeudi, brandissant des exemplaires du Coran et scandant des slogans pro-Sadr. L'assaut de l'ambassade suédoise à Bagdad intervient après que la police suédoise a autorisé un rassemblement jeudi devant l'ambassade irakienne à Stockholm, où les organisateurs prévoient de brûler une copie du livre saint des musulmans ainsi que le drapeau irakien. On dit que l'une des 2 personnes qui ont reçu le feu vert des responsables suédois pour mener cette action offensive est Salvan Momika, celui qui a brûlé le Saint-Coran à Stockholm le 28 juin. Le ministère irakien des Affaires étrangères a condamné l'incendie du bâtiment de l'ambassade de Suède dans un communiqué, affirmant que le gouvernement irakien avait ordonné aux forces de sécurité de mener une enquête rapide afin d'identifier les auteurs et de leur demander des comptes. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a fermement condamné mercredi 19 juillet la décision du Congrès américain selon laquelle Israël n'est pas un État raciste ou d'apartheid, soulignant que cette résolution ne changera rien à la nature fasciste et raciste du régime sioniste. Pour le Hamas, la décision américaine ignorait la sombre histoire de l'occupation israélienne qui est basée sur la politique de nettoyage ethnique et le déplacement des propriétaires terriens, ainsi que leur remplacement par des envahisseurs et des occupants. La résolution a également fermé les yeux sur les crimes récemment commis par des gangs de colons israéliens illégaux qui, sous la protection de l'armée israélienne, se sont livrés à des incendies criminels et à la destruction organisée de maisons, de véhicules et de fermes dans la ville de Hawara, dans le nord de la Cisjordanie occupée, ainsi que des dizaines de villages palestiniens, lit-on dans le communiqué du Hamas. Des groupes de défense des droits de l'homme remettent en cause l'idée du gouvernement français pour l'utilisation des vidéosurveillances par IA pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Les responsables français ont annoncé leur intention d'utiliser des caméras en temps réel avec IA pour des mesures de sécurité lors des Jeux olympiques d'été de Paris 2024 qui pourraient surveiller des centaines de milliers de spectateurs. Malgré les assurances du gouvernement français, selon lesquelles les propositions de sécurité n'incluront pas les technologies de reconnaissance faciale et que les caméras d'intelligence artificielle ne seront expérimentales que pendant une certaine période, les militants restent mécontents. Les Jeux olympiques de Paris sont prévus du 26 juillet au 11 août 2024. La période expérimentale devant se terminer en mars 2025. Des inquiétudes sont exprimées quant au fait que la véritable intention du gouvernement est de rendre ces dispositions de sécurité permanentes. La Cour constitutionnelle française a sanctionné la surveillance automatisée par caméra vidéo utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter les activités suspectes ou anormales dans les foules lors des prochains Jeux olympiques de Paris. Les ministres insistant sur des mesures de sécurité exceptionnelles pour l'événement qui devrait attirer environ 13 millions de spectateurs. Des groupes de défense des droits de l'homme ont remis en question la définition de comportement anormal ou suspect et ont exprimé des inquiétudes quant aux violations potentielles de la vie privée, de la liberté d'expression, de la liberté de réunion et du principe de non-discrimination. Cette critique intervient dans le contexte d'accusations antérieures d'autoritarisme contre le président français Emmanuel Macron suite à sa suggestion de fermer les réseaux sociaux pour faire face aux troubles de masse déclenchés par le meurtre d'un adolescent de 17 ans par la police à Nanterre. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Morte de Naël. Des centaines de manifestants ont été incarcérés. Le ministre français de la Justice a fait le bilan du récent mouvement de contestation qui a touché la France après la mort du jeune Naël. Plus de 1000 personnes ont été condamnées à de la prison, dont 742 à de la prison ferme, a-t-il annoncé. Au total, à la suite des violences qui ont embrasé la France fin juin, 1278 jugements ont été prononcés, avec 95% de condamnations, a détaillé le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sur la radio RTL, mercredi 19 juillet. Il a ajouté que 1300 personnes avaient été déférées au parquet et que 905 avaient fait l'objet d'une comparution immédiate. À l'issue de ces audiences, 1056 personnes ont été condamnées à une peine d'emprisonnement, dont 742 à une peine ferme avec une durée moyenne de 8,2 mois. Pour l'instant, 600 personnes ont été incarcérées. Les manifestations et les troubles sans précédent en France depuis 2005 ont commencé le 27 juin après qu'un policier a tiré à bout portant sur un adolescent algérien de 17 ans. Lors d'un contrôle routier à Nanterre, à l'ouest de Paris. Le ministre français de la Justice a expliqué à propos des verdicts rendus contre les émeutiers que plus de 95% des accusés ont été reconnus coupables de divers crimes, notamment de vandalisme, de vol, d'incendie criminel ou d'attaque contre des policiers et des forces de sécurité. De nombreux suspects ont dû comparaître immédiatement devant le tribunal dans le cadre d'un système accéléré qui a suscité des inquiétudes chez les avocats des accusés quant à l'équité de la procédure judiciaire et aux peines sévères pour les criminels. Selon le ministre, bien que les courtes peines de prison puissent généralement être commuées en peines non privatives de liberté, généralement avec l'utilisation de bracelets électroniques, quelques 600 personnes ont été envoyées en prison jusqu'à présent. Selon les statistiques du gouvernement français, l'âge moyen de plus de 3700 détenus n'était que de 17 ans. Ce qui a fait que les mineurs comparaissaient séparément devant les tribunaux pour enfants. On ne peut pas regarder ces événements en laissant faire les choses. Il était impérieux que nous rétablissions l'ordre républicain, a-t-il ajouté avant de saluer les procureurs qui ont été au rendez-vous des obligations de fermeté. Éric Dupond-Moretti a également souligné que l'autre but était de rappeler aux jeunes que Snapchat, ce n'est pas une planque, et qu'on peut, comme on dit, péter les comptes, et que quand deux gamins s'appellent pour se donner rendez-vous et pour viser une cible, on peut les trouver. Et d'ailleurs, ça a été fait et des condamnations sont intervenues.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous, je vous prie. Alors dans ce débat, dans le débat d'aujourd'hui donc, il est question de l'intégrité territoriale de l'Iran et de la souveraineté nationale. Et dans le golfe Persique, les trois îles, à savoir Abu Moussa, la Grande Tombe et la Petite Tombe, appartiennent donc juridiquement et historiquement à l'Iran. Alors, dans une réunion de CCGP, la Russie et d'autres pays ont protesté la souveraineté nationale de l'Iran sur ces trois îles. Donc, l'Iran, très mécontent de cette réaction, donc, a décidé de convoquer l'ambassadeur russe à Téhéran, exigeant des explications, bien sûr. D'autre part, le ministre iranien des Affaires étrangères, dans une visite donc, avec son homologue omanais à Téhéran, a déclaré qu'il ne marchanderait jamais le territoire iranien, surtout concernant ces trois îles. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la République islamique ne tolérera jamais aucune ingérence en ce qui concerne son intégrité territoriale suite aux récentes revendications concernant les trois îles du golfe Persique d'Abu Moussa, la Grande Tombe et la Petite Tombe. S'adressant à une conférence de presse conjointe avec son homologue omanais Saïd Badr al-Busaidi à Téhéran lundi 17 juillet, Amir Abdollahian a déclaré que Téhéran ne marchanderait avec aucun pays en ce qui concerne la nécessité du respect de l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale. Le patron de la diplomatie iranienne a fait sa remarque en réaction à une déclaration conjointe publiée la semaine dernière par le Conseil de coopération du Golfe Persique, CCGP, et la Russie, qui contestait la souveraineté de l'Iran sur les trois îles. Dans leur déclaration, les ministres ont déclaré que la question devrait être réglée par des négociations bilatérales ou par la Cour internationale de justice, conformément aux règles du droit international et la Charte des Nations unies. Mercredi 12 juillet, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie à Téhéran, Alexei Dedov, et a exprimé l'objection de la République islamique à la déclaration conjointe. Après que l'ambassadeur russe a été convoqué par le ministère iranien des Affaires étrangères, nous avons reçu certaines explications de responsables russes, mais nous ne les considérons pas comme suffisantes et nous ne tolérons pas la répétition d'une telle approche par la Russie ou toute autre partie. Concernant l'intégrité territoriale de l'Iran, a déclaré Amir Abdollahian aux journalistes. Les trois îles du golfe Persique d'Abu Moussa, la Grande Tombe et la Petite Tombe ont historiquement fait partie de l'Iran, dont la preuve peut être trouvée et corroborée par d'innombrables documents historiques, juridiques et géographiques en Iran et dans d'autres parties du monde. Cependant, les Émirats arabes unis ont revendiqué à plusieurs reprises les îles. Les îles sont tombées sous contrôle britannique en 1921, mais le 30 novembre 1971, un jour après le départ des forces britanniques de la région et deux jours seulement avant que les Émirats arabes unis ne deviennent une fédération officielle, la souveraineté de l'Iran sur les îles a été rétablie. Ailleurs, dans sa remarque, Amir Abdullahian a noté que l'Iran et Oman ont suivi la mise en œuvre des accords précédemment signés entre les deux pays. Au cours des 22 derniers mois, le volume des transactions commerciales entre Téhéran et Mascate a plus que doublé, ce qui est un record remarquable, a-t-il déclaré. Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté qu'une réunion du comité économique conjoint se tiendrait à Téhéran pour accélérer la promotion de la coopération bilatérale.
Eh bien, voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Alexandre Rouget, qui est avec nous depuis France. Monsieur Rouget, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à Emadeddine Hamrouni, expert de questions internationales, qui est avec nous également depuis France. Monsieur Hamrouni, bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous et à votre invité, à tous nos téléspectateurs.
Très bien. Alors, ma première question va s'adresser à monsieur Rouget, donc, qui est avec nous depuis France. Alors, nous parlons bien sûr de l'intégrité territoriale de l'Iran et de la souveraineté nationale. Comment se fait-il que la Russie, l'ami très proche de l'Iran, se permet de protester donc, les trois îles au CCGP, étonnant tout de même? Que pensez-vous?
Étonnant, oui, et il faudrait se demander de quelle source exacte proviennent cette prise de position de la part des Russes, de qui l'on parle. Est-ce qu'il s'agit d'éléments diplomatiques? Est-ce qu'il s'agit d'acteurs privés qui sont peut-être impliqués dans les affaires et dans le commerce avec Oman et les Émirats arabes unis? Peut-être des acteurs davantage investis d'une mission privée et individuelle que d'une autorité publique et qui se sont exprimés d'un point de vue qui n'était forcément pas très légitime sur une question qui ne relève pas effectivement de leurs compétences. Il y a déjà eu confusion, on va dire, semblable dans l'actualité récente de la part de certains acteurs russes. On peut penser aux déclarations de Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, qui avait jeté la panique en Occident en disant qu'il fallait utiliser l'arme nucléaire pour en finir avec l'OTAN et les nazis en Ukraine, suite à quoi le Kremlin avait déclaré qu'il ne fallait pas trop s'en inquiéter puisque M. Kadyrov était d'un tempérament quelque peu émotif. Et c'est peut-être à ce caractère un peu impulsif ou émotionnel qu'il faut attribuer les déclarations de certains acteurs russes sur la souveraineté territoriale des trois îles que vous mentionnez, puisque d'un point de vue de la politique sérieuse et de la politique logique que suivent les Russes depuis très 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 longtemps, on ne voit pas pourquoi, ni comment, ni à quel titre cette souveraineté iranienne pourrait être contestée.
Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Hamrouni, qui est également avec nous depuis France. Que pensez-vous, je vous prie, M. Hamrouni?
Vous savez que dans la défense des intérêts vitaux de chaque pays, donc la Russie défend ses intérêts nationaux, et ce n'est pas la première fois que la Russie, ou même la Chine, rappelons-le, le président chinois, lorsqu'il était en Arabie Saoudite, il a fait des déclarations semblables. Donc, revenons sur l'affaire des trois îles. L'île tombe petite et la grande et Abu Mous. Il faut savoir que ces trois îles, trois îlots, ne dépassent même pas les 10 km carrés. À Abu Mous, il y a à peu près 800 habitants et les deux autres îles, il y a à peu près 150 habitants. La chose la plus importante au niveau stratégique, c'est qu'il y a une 40 km de largeur sur le détroit d'Hormuz, qui représente un endroit très important pour le transport maritime des pétroles. Il faut rappeler qu'il y a un cinquième du pétrole du monde passe par cet endroit, donc c'est un endroit stratégique. Il faut rappeler l'histoire aussi. L'histoire montre que ces îles appartiennent à l'Iran et que les Émirats arabes unis, un nouveau pays, en 1971, il a eu son indépendance et que donc à partir à peu près de fin des années 70, donc les Émirats arabes unis commencent à réclamer ces trois îlots. Il y a eu des ententes avec l'Iran, il y a eu des accords avec l'Iran. Donc ce que la Russie a fait, c'est de l'ingérence. c'est vraiment de l'ingérence. Et le ministre des Affaires étrangères, il a bien fait de convoquer l'ambassadeur russe et de lui donc montrer que l'Iran ne permettrait pas cette ingérence de la part des forces étrangères et surtout des forces amies comme la Russie ou la Chine même.
Absolument. Monsieur Rouget, est-ce qu'on peut parler d'une provocation? Très longtemps, la Russie est restée silencieuse à l'égard de ces trois îles et bien d'autres choses, d'autres sujets qui concernent l'Iran. Et d'un coup, elle se met à protester donc la souveraineté nationale de l'Iran. Est-ce qu'on peut parler d'une provocation de la part de la Russie à l'égard de l'Iran? Les Émirats arabes unis souhaitent que ces trois îles soit appartenu donc aux Émirats arabes unis, ce qui va être sans doute très certainement refusé par l'Iran. Comment se fait-il? Est-ce qu'on peut parler de la provocation?
Oui, cela ressemble à une provocation. Et je vous dis encore une fois, cela est invraisemblable de la part de sources publiques, c'est-à-dire de Russes investis d'un mandat et d'une légitimité à caractère public, ou si cette provocation est simplement le fait d'individus qui s'expriment au nom uniquement d'intérêts privés. Et si effectivement c'est une provocation que nous avons à faire, eh bien, la question peut se poser, ma foi, de savoir si les individus qui sont à l'origine de cette protestation ont agi en leur nom propre ou au nom d'intérêts effectivement dissimulés. Pour vous dire clairement ma pensée, c'est peut-être que nous avons affaire à une déclaration sous faux drapeau, de même qu'il y a des attentats sous faux drapeau, peut-être que nous avons affaire à une déclaration d'individus de nationalité russe, mais qui ont été suggestionnés, manipulés ou influencés pour produire cette déclaration uniquement afin de provoquer l'Iran et de brouiller les cartes entre l'Iran et la Russie. C'est une possibilité qui me paraît intéressante, puisque si provocation il y a bel et bien, il faut se demander à qui profite le crime. Et une telle provocation ne profitera ni aux Iraniens ni aux Russes.
Oui, donc d'autres pays sont concernés, certainement des pays qui ont des intérêts pétroliers dans la région. Quand vous avez dit, M. Abrouni, que l'existence de ces trois îles a un rapport avec le transfert tout de même du pétrole, donc est-ce que ça peut être économique?
Oui, le conflit, il est stratégique et politique et militaire et économique. Donc l'importance de la géopolitique aujourd'hui fait que d'abord les Russes, ils défendent leurs intérêts, ce n'est pas de la provocation, c'est qu'ils ont besoin des Émirats arabes unis, ils ont besoin de l'Arabie saoudite, ils ont besoin du Qatar et ils ont besoin du Koweït. Donc ils ont besoin que ce soit pour maintenir les prix de l'énergie, du pétrole et du gaz, ils ont besoin des Émirats arabes unis pour leur économie et leurs finances parce qu'ils sont sous embargo, il y a des sanctions contre l'économie russe. Donc, ils ont besoin de l'appui des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. En contrepartie, ils ont besoin aussi avec leur relation avec l'Iran. Mais ils savent très bien que la position russe ne va pas changer dans la nature des choses. Car même les Américains, ils ont utilisé cet indifférent avec les Émirats arabes unis. Ils ont essayé aussi d'utiliser l'indifférent avec le Koweït sur un gisement de pétrole avec une frontière entre l'Arabie saoudite, le Koweït et la République islamique d'Iran. Donc il y a beaucoup de conflits majeurs dans cette région et la République islamique d'Iran a toujours cherché de résoudre ces problèmes avec ses voisins, c'est-à-dire sans ingérence extérieure. Et on a vu le prix que ces peuples, que ce soit l'Iran, l'Irak, les peuples arabes du Golfe Persique, le prix fort qu'ils ont payé à cause de l'ingérence américaine, britannique, française et autres. Donc l'Iran a toujours cherché de résoudre ses problèmes avec ses voisins, avec la voie diplomatique et pas avec d'autres voies par l'ingérence de la Russie ou des États-Unis ou même de l'OTAN.
Alexandre Rouget, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie, face à ces propos?
Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Hamouni. Cela ne change rien au fait que cette déclaration, encore une fois, de la part des Russes, mais encore une fois, de quels Russes il s'agit, nous ne savons pas qui a formulé cette protestation.
D'après vous, M. Rouget?
Mais ce n'est pas indiqué dans le reportage que j'ai consulté avant de prendre la parole, et c'est pourquoi je me permets de demander si la source de cette protestation n'est pas davantage d'ordre privé que d'ordre public, et qu'elle n'engage des intérêts privés bien plus que les autorités publiques de la Russie. C'est la première chose. Et, si, et dans la mesure où cette déclaration constitue effectivement un acte d'ingérence virtuelle, mais d'ingérence quand même, par rapport à l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, c'est une provocation. Mais est-ce que cette provocation, encore une fois, est le fait d'intérêts d'origine privée ou est-ce qu'elle provient d'une autorité investie de la légitimité publique de la Russie? C'est la question que je me pose.
Absolument. Monsieur Amrouni, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que l'Iran a toujours cherché depuis des décennies donc, de résoudre les problèmes de la région qui sont parfois très compliqués par la voie diplomatique, sans permettre l'ingérence de certains pays, surtout des grandes puissances et des pays occidentaux. Est-ce que l'Iran a réussi de le faire et l'ingérence poursuit malgré donc l'effort de l'Iran de résoudre les problèmes?
Oui, vous savez, nous sommes devant une problématique, c'est que la diplomatie, son rôle principal, la diplomatie, c'est de défendre et protéger les intérêts du peuple iranien, sur la base de la transparence et de l'audace. Donc, pendant presque 40 ans, il y avait une tolérance excessive de la part des Iraniens sur ce sujet-là, avec ses voisins, que ce soit avec l'Irak, que ce soit avec les pays du Golfe Persique. Donc, il faut que la diplomatie iranienne envoie des messages fermes à ses voisins, mais aussi à la Russie, à la Chine et aux États-Unis. Parce que ces ingérences, que ce soit américaines ou chinoises ou russes, c'est de la même ingérence étrangère. Donc il faut que l'Iran, une puissance importante dans le monde et dans cette région, envoie des messages fermes que pour les investissements chinoises ou russes dans cette région, ils ne peuvent pas les faire sans l'appui et l'aval de la République islamique d'Iran. Donc il faut que la diplomatie iranienne, comme elle envoie un message ferme à ses voisins arabes, il faut qu'elle envoie un message ferme à ses alliés russes et chinois aussi.
Monsieur Rouget, tout simplement convoquer l'ambassadeur russe à Téhéran, exiger des explications. Est-ce que ça suffit pour donner un message ferme à certains pays de ne pas s'ingérer, comme a dit Monsieur Amrouni?
Ah mais je le souhaite, d'autant que le ministre des Affaires étrangères de la République d'Iran a considéré que les explications de l'ambassadeur de Russie n'étaient pas suffisantes. Il serait intéressant de savoir quelles explications Monsieur l'ambassadeur de Russie a fournies au cabinet des Affaires étrangères iraniens. Mais encore une fois, cela laisse à penser que si ces explications de l'ambassadeur ne sont pas suffisantes, c'est que lui-même n'est peut-être pas bien sûr de qui il a affaire et encore une fois, quelle est la source de ces déclarations et de cette provocation russe. Auquel cas, il lui eût été facile de dire, écoutez, je désavoue la source de cette déclaration qui n'engage absolument pas la politique étrangère officielle de mon pays et vous n'avez aucun souci à vous faire sur la souveraineté territoriale sur ces trois îles. Ça n'a pas été le cas, c'est bien qu'il y a un embarras, à mon avis, du côté russe sur la source, la provenance de ces déclarations qui remettent en cause l'intégrité territoriale de l'Iran sur ces trois îles. Cela me paraît être, encore une fois, à mon avis, soit c'est un faux problème et une tentative de déstabilisation de la part d'intérêts privés occidentaux qui ont utilisé des éléments russes pour faire cette déclaration afin de déstabiliser et de perturber la relation entre la Russie et l'Iran. C'est ce qui me paraît l'explication la plus simple, la plus plausible. S'il y en a une autre, je ne doute pas qu'elle émerge bientôt, mais je doute que cela soit de nature, effectivement, que cela soit suffisant pour perturber effectivement l'alliance et la bonne entente diplomatique entre la Russie et l'Iran.
Des propos très intéressants de la part de M. Rouget. M. Amrouni, est-ce que vous partagez donc son avis?
Oui, bien sûr, tout à fait. Mais moi, j'ajoute que la Russie a le droit de défendre ses intérêts vitaux. Je veux dire par là, c'est que, bon, elle a besoin de l'appui des Émirats arabes unis, elle a besoin de l'appui de l'Arabie saoudite. C'est aux Iraniens maintenant de montrer, d'agir, je ne dis pas de réagir, mais d'agir autrement, parce que depuis 40 ans, comme je l'ai dit, ils ont laissé faire. Ils étaient trop tolérants avec les Émirats arabes unis, avec ses voisins arabes. Donc il faut qu'ils soient plus fermes pas simplement dans la parole, mais dans l'exécution, au niveau militaire, au niveau économique et au niveau stratégique. Il faut appuyer la coopération collective avec ces pays. Il faut montrer qu'ils ont le moyen de protéger les intérêts vitaux de tous les pays musulmans autour du détroit d'Hormuz sans avoir besoin des Américains ou des Chinois ou des Russes. Mais maintenant, la problématique, elle n'est pas russe. La problématique, elle est plutôt iranienne. Il faut que la diplomatie iranienne, qu'il faut le gouvernement iranien envoie des vrais messages parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde change. Et la République islamique d'Iran, aujourd'hui, c'est une puissance internationale. Il faut que cette puissance montre qu'elle est capable d'amener la sécurité et la stabilité avec ses voisins. Et il faut aussi qu'elle montre pour ses alliés, que ce soit russes ou chinois, qu'ils ne peuvent rien faire dans cette région sans l'aval de la République islamique d'Iran.
Tout à fait. Alexandre Rouget, donc vous invitez le peuple iranien, le gouvernement iranien, à demeurer donc vigilant à l'égard de la protestation russe concernant les trois îles et la souveraineté nationale, plutôt que considérer que c'est les propos directs du gouvernement russe à cet égard.
Ah oui, cela me paraît une précaution indispensable à prendre en la situation. Genre, il est impossible, pour l'instant, pour le peu que j'en sache, il est impossible d'attribuer cette provocation à une source officielle russe. C'est pourquoi, oui, enfin, je ne me permettrai jamais d'appeler qui que ce soit à la vigilance. Il me paraît évident que, oui, il faut être très vigilant et très circonspect et avoir beaucoup de recul sur une déclaration aussi intempestive, aussi contradictoire. Une contradiction qui va à l'encontre, évidemment, des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale qui sont la pierre de touche de toutes les relations internationales. Une déclaration aussi intempestive, incohérente, contradictoire, ne me paraît pas pouvoir provenir de sources officielles. Cela me paraît simplement logique, cohérent, et à partir de là, cela ne me paraît pas justifier, effectivement, ni nécessité d'intervention ou de réaction. Peut-être aussi martial et aussi brutal que certains eût pu espérer de la part des Iraniens, car une provocation de cet ordre-là, aussi bête hein, et aussi primaire, qui ressemblait bien au genre de provocation dont les Anglo-Saxons sont très friands et dans lesquels ils sont passés experts hein, depuis des siècles, hein, ce genre de manipulations et de fausses déclarations destinées à provoquer des crises entre deux partenaires, ce n'est pas une nouveauté dans la politique internationale. C'est une tactique très ancienne de la part des Anglo-Saxons en particulier, et ma foi, je doute que les Iraniens puissent tomber et les Russes puissent tomber dans un piège aussi grossier, et je doute encore une fois qu'une provocation aussi stupide et aussi incohérente soit le fait des autorités russes elles-mêmes, mais qu'elle provienne bien plutôt d'agents russes qui ont été utilisés, manipulés pour essayer de perturber les relations entre les Russes et les Iraniens.
Monsieur Amrouni, vous aurez le dernier mot, je vous prie.
Oui, nous espérons que les pays donc, de la région, les pays voisins avec l'Iran, tireront profit de ces expériences de l'ingérence étrangère et qu'ils trouveront un plan de sécurité, de coopération sur la sécurité et la stabilité régionale. Je pense que les Émirats arabes unis, la relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar et Oman aussi va permettre de mettre en place un plan commun de coopération, un plan commun pour la sécurité et la protection de la région, et que ça montre que la puissance réelle dans cette région, c'est la République islamique d'Iran avec ses voisins, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
Emadeddine Hamrouni, expert des questions internationales depuis France, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Alexandre Rouget, qui a été également notre invité depuis France, d'avoir apporté beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 9 à 14 du chapitre 45 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Jassiya, l'agenouillée. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Notre précédent programme, nous avons lu des versets de la sourate 45 du Noble Coran qui nous ont appris que la descente du Coran a été attribuée à deux grands attributs du Seigneur, la puissance et la sagesse de Dieu le Très-Haut. Ensuite, sont évoquées les innombrables preuves de la sagesse et de la puissance du Seigneur dans les cieux et sur la terre. Les croyants y trouvent des éléments qui renforcent leur foi. La création de l'homme et des autres êtres vivants est pleine de signes pour les gens qui veulent connaître leur Créateur. Dieu le Très-Haut fait descendre du ciel la pluie qui donne la vie à tout ce qu'il y a sur la terre. La pluie redonne la vie aux plantes qui étaient apparemment mortes. La pluie, les vents et tous les éléments naturels sont des signes de la sagesse qui marque la création de l'univers par Dieu le Très-Haut. Cependant, les égarés, les pécheurs et les criminels s'obstinent dans leur perdition. Et quand ils entendent les versets du Livre Saint, ils les rejettent et insistent dans leur égarement. En réalité, le Saint-Coran souligne que le cœur de ces égarés n'est pas prêt à recevoir la vérité. Ils mériteront donc le châtiment et la colère dans ce bas monde et dans l'au-delà de la part du Seigneur, en raison de leurs actes et leurs paroles. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 9 à 11 de la Sainte Sourate Al-Jassiya, l'agenouillée. Puis nous vous en donnerons la traduction.
وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
Si la connaissance de quelques-uns de nos versets, ils les tournent en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse. Ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors de Dieu. Ils auront un énorme châtiment. Ceci, le Coran, est un guide. Et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Le Saint-Coran souligne que les égarés, quand ils entendent les versets du Livre Saint, Ils se tournent le dos à l'appel divin et s'en moquent. Ils se raillent aussi du messager et des croyants. À ces obstinés, Dieu le Très-Haut promet un dur châtiment tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Après le jugement dernier, ils demeureront dans l'enfer, où rien de ce qu'ils possédaient dans leur vie matérielle sur la terre ne pourra leur faire échapper au châtiment éternel. Le Coran est un guide pour l'humanité tout entière, et ceux qui tournent le dos au message divin seront châtiés pour leur rébellion et leur désobéissance. Ces versets nous apprennent qu'aux yeux de Dieu, le châtiment réservé aux criminels et aux mécréants sera proportionnel par rapport à leurs péchés. Le pouvoir et la richesse acquis dans ce bas monde ne pourront pas servir aux gens dans l'autre monde. Ceux qui se privent dans cette vie éphémère de la guidance divine se feront mériter dans l'au-delà un dur châtiment. Voici maintenant les versets 12 et 13 de la sainte sourate Al-Jassiya, l'agenouillée.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Dieu, c'est lui qui vous a assujetti la mer afin que les vaisseaux y voguent par son ordre et que vous alliez en quête de sa grâce afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Autre signe de la grandeur et de la miséricorde du Seigneur, c'est qu'il a appris aux humains d'exploiter les forces de la nature. Dieu a appris aux hommes de construire des vaisseaux et de naviguer dans la mer. Dieu a appris aux hommes à dominer les éléments de la nature pour améliorer son existence. Ces versets nous apprennent que Dieu le Très-Haut a permis aux humains, par sa miséricorde et sa clémence, d'apprendre à améliorer leur vie sur la terre. Or, il y a parmi les humains ceux qui ne veulent même pas remercier le Seigneur pour ses bienfaits. L'islam apprend aux fidèles qu'ils doivent œuvrer pour améliorer les conditions de vie d'eux-mêmes, de leur famille et de leurs proches, mais aussi de leur société. Le Coran appelle les humains à méditer les différents aspects de l'existence. La connaissance de l'univers est un moyen efficace de la connaissance du Créateur, selon les enseignements coraniques. Écoutons enfin le verset 14 de la sourate 45 du noble Coran.
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours de Dieu, afin qu'ils rétribuent chaque peuple pour les acquis qu'ils faisaient. Dieu le Très-Haut s'adresse à son noble messager, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, de ne pas s'en prendre à des gens qui ne croient pas en Dieu. En réalité, chaque peuple a ses propres croyances. Et au jour du jugement dernier, chaque groupe et chaque individu sera jugé uniquement d'après ce qu'il a fait pendant son existence matérielle sur la terre. Ce verset du noble Coran nous apprend que la méthode de traiter les ennemis de Dieu dépend directement du contexte dans lequel se trouvent les différentes parties d'une société. Il est nécessaire parfois de ne pas s'en prendre aux adversaires et confier les affaires à la volonté du Seigneur. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 45 du noble Coran, la sainte sourate Al-Jassiya, l'agenouillée. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.